Bonsoir. Depuis jeudi dernier, l'Afrique n'a plus aucun représentant à la Coupe du Monde de football qui se déroule depuis deux semaines en Russie. Les cinq pays du continent qui y participaient ont tous été éliminés au premier tour ce lundi et mardi. Donc demain, le mondial russe joue ses derniers matchs de huitième de finale et la compétition prendra fin le 15 juillet prochain. Quelle analyse faire de la prestation des nations africaines au premier tour du mondial 2018? C'est la question au débat ce soir et pour en parler, nous serons avec Pierre-Célestin Kabala Mwanambui, analyste sportif et président de l'association des journalistes sportifs de la RDC, AJSC en sigle. Pierre-Célestin Kabala, bonsoir.
Bonsoir, Dumaté.
Bienvenue dans cette émission, c'est Dona Madimba à la présentation. Nous allons y arriver. Bruno Blas dans ce studio. Bonsoir Bruno Blas.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
Vous êtes entraîneur et consultant sportif. Al Kitenge également dans ce studio, analyste et stratège. Al Kitenge, bonsoir.
Bonsoir Donat.
À tous, le décor est déjà planté. Bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
C'est désormais une coutume installée à Dialogue entre Congolais. On parle aussi sport, Coupe du Monde de football Russie 2018. La compétition commencée depuis deux semaines se poursuit. Ce lundi, le dernier match des sept avant-dernière journée des huitièmes de finale se joue en ce moment même et oppose la Belgique au Japon. À ce stade, rappelons qu'il ne reste plus aucun pays africain dans la compétition. Les cinq représentants du continent, à savoir le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte, ont tous été battus la semaine dernière au premier tour. Ce sera donc la deuxième fois d'affilée que l'Afrique ne dépasse pas le premier tour en Coupe du Monde de football depuis 2010. Pour mieux comprendre ce nouveau fiasco africain dans cette compétition sportive majeure, Guy Maté nous retrace ici le parcours de ces cinq représentants du continent.
C'est la défaite du Sénégal jeudi dernier, 1-0 contre la Colombie, qui a sonné le glas de l'élimination totale des pays africains du mondial de football qui se joue actuellement en Russie. La situation n'aura véritablement jamais été facile pour les Africains dans cette compétition. L'Égypte arrivait pourtant au mondial russe avec une certaine prétention parce qu'elle possédait dans ses rangs Mohamed Salah, le meilleur buteur des championnats européens cette année. Mais les pharaons ont quitté la compétition avec le parcours le plus honteux de tous les participants africains cette année. Ayant perdu tous ses trois matchs du premier tour et en ayant marqué que 4 buts dans cette compétition contre 6 buts encaissés. Le Maroc a évité l'humiliation de l'Égypte en accrochant un seul match nul en 3 rencontres. Un nul de 3 buts partout contre l'ancien champion du monde 2010, l'Espagne. Le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal, quant à eux, auraient pu se qualifier en 8e de finale. Mais ce ne fut pas le cas. Le Nigeria et la Tunisie ont terminé le mondial russe avec une victoire chacun et 3 points enregistrés. Le Sénégal, finalement, aurait été la seule fierté africaine, entre guillemets, dans ce mondial russe. Le pays de la Teranga n'a été éliminé qu'à cause de la loi sur le fair play avec un carton jaune de plus que le Japon qui possédait les mêmes statistiques que le Sénégal, à savoir un match gagné, un nul et une défaite. Le même nombre de points, 4, et le même nombre de buts, 4 marqués et 4 encaissés.
Pierre-Célestin Kabala Mwanambui, c'est toujours un plaisir de vous avoir pour des éclairages. Pierre-Célestin, analyste sportif et président de l'association des journalistes sportifs de la RDC, AJSC en sigle. Ce fiasco africain au mondial russe entièrement au premier tour de la compétition, pour vous, Pierre-Célestin Kabala, un fait normal ou anormal?
Bien, à tout prendre, je peux dire que et cela est tout à fait normal, c'est à mon sens. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a encore du chemin à faire. L'Afrique a déjà fait une distance, mais la distanciation avec l'Europe et l'Amérique est encore à combler. Pourquoi ? Parce que j'ai dit que l'Afrique a commencé aller à la Coupe du Monde avec une seule nation, et puis c'était 2, et puis voilà qu'on est arrivé à 5 nations, qui représente l'Afrique à la Coupe du Monde. L'Afrique a commencé à la Coupe du Monde sans football professionnel. Et aujourd'hui, l'Afrique compte des joueurs professionnels en majorité dans ses rangs. L'Afrique n'avait pas suffisamment d'écoles de formation des footballeurs. Aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Et je peux dire qu'en général, les enfants africains suivent les mêmes études que les enfants européens ou sud-américains au plan du football. Et qu'aujourd'hui, nous avons des Africains qui œuvrent en Europe comme s'ils étaient des experts expatriés. C'est déjà un progrès. Mais j'ai dit que le mot fiasco, pour moi, est un peu trop dur, parce que ce que je constate, c'est que l'Afrique a encore un chemin à faire sur le plan, d'abord, de la résistance et de l'endurance, et sur le plan du mental. L'Afrique compte sur des individualités, alors qu'il lui faut des équipes soudées et un esprit de corps. Quand vous analysez les résultats réalisés par toutes les nations, tous les pays africains, vous allez constater que c'est vers la fin du match, il y a des moments décisifs que les Africains ont été battus, qu'ils n'ont pas fait des nuls. Donc dans un premier temps, voilà la perception que j'ai de l'élimination de l'Afrique. Mais je dis que si l'Afrique pouvait faire l'évaluation nécessaire et prendre conscience de ses limites au plan mental et au plan de l'endurance et la résistance, je crois qu'elle pourra rejoindre l'Europe et l'Amérique du Sud.
Pierre-Célestin Kabbala, le mot fiasco peut peut-être paraître dur, mais il peut peut-être se justifier aussi par le fait que sur les 5 partants, 5 ont tous été éliminés à la même au même niveau de la compétition. Et puis c'est vrai, ce que vous dites n'est pas faux. On reviendra tout à l'heure sur la désignation du fiasco ou pas, mais on regarde justement que vous-même vous dites que l'Afrique c'est un peu normal que l'Afrique ait été décimée de la sorte, mais on regarde bien que dans cette Coupe du monde, il y a beaucoup de surprises. On voit par exemple l'Espagne qui est champion d'Afrique en 2010, il y a 8 ans, qui est éliminé déjà, l'Argentine plusieurs fois champion du monde, dont en 86, et la dernière championne du monde, il y a à peine 4 ans, l'Allemagne, qui est aussi partie, quant à l'Italie, elle n'a même pas participé du tout. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas aussi normal que, de temps en temps, ceux qui ne le méritent pas soient éliminés?
Et voilà, justement. Mais c'est ce qui me réconforte dans mes analyses quand je vois qu'il y a des cracks qui ont été éliminés. Mais ce n'est pas une raison pour que l'Afrique se dise qu'elle doit toujours rester en marge des grands du monde. Mais quand je regarde aussi les comportements du Sénégal qui n'a été éliminé
qu'au fair play,
par les jeux de fair play, je me dis qu'il y a déjà un pas. Mais un pas qu'il faut compléter, parce que quand j'ai entendu parler le coach du Sénégal, je me suis dit, ça y est, je crois qu'on ne sait pas trop bien qu'un sportif doit être complet et qu'il doit l'être jusqu'au bout des ongles.
Alors,
j'ai entendu l'entraîneur du Sénégal dire que quand il entraîne ses ouailles, il n'a pas à leur dire qu'il faut qu'il comptabilise les cartons. C'est ce qui éloigne l'Afrique des valeurs essentielles du football. Le fair play en fait partie.
Alors,
qu'on entraîne les gens, qu'on leur dise, allez-y à tête, à tue-tête, eh bien là, c'est quelque part, nous pouvons trouver qu'il y a des manquements.
Une certaine rigueur apparemment aussi. Bon, puisque vous évoquez les cas particuliers, allons-y de votre analyse à cet exemple. Comment expliquez-vous la grandissime et honteuse prestation de l'Égypte, par exemple, alors qu'ils ont le meilleur buteur au monde en club cette année? Là aussi, l'adjectif peut être exagéré, mais on peut avancer des éléments.
Oui, l'Égypte, c'est l'un des pays d'Afrique, mais surtout d'Afrique du Nord, qui a un football le mieux organisé, et avant tous les autres pays du monde africain, l'Égypte a des clubs qui sont très solides, qui ont un soubassement économique appréciable, qui ont des installations sportives admirables. Mais l'Égypte, reste modeste dans son jeu d'ensemble, d'autant plus qu'elle n'a compté que sur une vedette. Le football se joue à 11, il ne se joue pas avec une seule vedette.
Est-ce
qu'on n'aura pas compris qu'il faut justement... Oui, je disais.
Oui, comment, vous allez revenir tout à l'heure sur certains détails, mais comment expliquer aussi la régulière élimination d'une grande équipe comme le Nigeria, régulièrement battue à la dernière minute du match? Ça a été plusieurs fois le cas contre l'Italie, contre la même Argentine, plusieurs fois en Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Pourquoi toujours le même scénario de la même manière?
Le Nigeria a une tradition, c'est qu'elle renouvelle toujours sa génération. Quand vous avez regardé ce qui est arrivé, c'est que le Nigeria a pris des jeunes. Et souvenez-vous de ce que la génération des Nwankwo Kanu a fait lors des Jeux Olympiques et même son évolution en Coupe du Monde. Mais c'est un pays qui est toujours enclin à pouvoir laisser partir ses talents vers les meilleurs cieux. Et aujourd'hui, le Nigeria nous a présenté une équipe qui est tout à fait composée d'une génération montante. Mais reste à savoir si cette génération va travailler dans la durée. Parce que l'Afrique a ceci de paradoxal, c'est qu'une fois qu'on a des jeunes qui valent la peine, on les laisse partir. Et on les rappelle à quel moment. C'est ça le problème du Nigeria, qui se comporte très bien en football d'âge et qui arrive à faire jeu égal avec l'Occident. Mais lorsque... Par moment, on laisse partir toutes ces vedettes qui font la fierté du Nigeria et qu'on ne les rappelle que lorsqu'il s'agit de préparer la Coupe du Monde. Oh Dieu, mais combien de temps avant le coup d'envoi? Vous voyez, il y a des limites quelque part.
Pierre-Célestin Kabbala, ce sujet est passionnant, surtout que c'est aussi votre domaine de prédilection. Nous reviendrons à vous. Merci pour ces premiers éclairages. Bruno Blas, entraîneur et consultant sportif, vous allez nous dire tout à l'heure si pour vous le mot « honteuse défaite de l'Égypte » ou encore « fiasco des représentants africains » est exagéré. Mais dites-nous déjà, pourquoi les équipes africaines sont-elles... Est-ce que pour vous, les équipes africaines sont bien entraînées ou bien préparées?
Moi, j'abonderai dans ton sens. Hein. Je crois qu'on peut employer tous les qualificatifs possibles. Fiasco, défenestration, échec. Mais c'est vrai.
Tsunami.
Nous sommes éliminés. Sur 5 qui allons à la guerre, aucun ne revient. Donc on peut parler de fiasco, pour moi. Et
mais est-ce qu'elles sont bien entraînées, bien préparées?
Non, je viens. Mais Édouard Glissant avait écrit à l'époque « Agis sur ton lieu, mais parle au monde ». Nous, en Afrique, on agit sur nos lieux de façon négative, mais on ne parle pas au monde. C'est une coupe du monde. Et quand on y va, c'est une guerre sportive. Il faut la gagner. Et vous y allez... avec des lance-pierres, là où les autres viennent avec des chars de combat, des missiles. Alors, maintenant, quant à la préparation, tout était un problème de protocole. Il y a un protocole de préparation, un protocole technique, un protocole tactique. Donc, c'est cette agrégation de paramètres qui font que on va pour gagner. Et quand on va à une compétition, je dirais mondiale, hein, c'est pas la CAN. Non, c'est le monde qui nous regarde. Et chacun doit montrer son football qui, après 4 ans, pour voir s'il a progressé ou pas. L'Afrique, dans tous ses protocoles de préparation, dans tous ses protocoles sur l'aspect tactique, technique, l'aspect mental, et je rejoins Kabbala sur ce point-là, qui parlait d'un problème mental. Voilà, moi j'ai senti, par exemple, quand j'ai vu le Maroc, dans les deux premiers matchs, une espèce de, j'irais, de léthargie mentale, de ils n'osaient pas du tout. Ils l'ont fait au dernier match contre l'Espagne et là j'ai vu une belle équipe. Quand à l'Égypte, là vraiment c'était une déception pour moi. Sur le plan technique, je n'ai rien vu du tout. L'Égypte avait un jeu chatoyant, mais là incapable de faire deux passes. Sur le plan de la récupération du ballon, tactiquement c'était nul. Alors qu'ils ont des joueurs. Nous en Afrique, nous avons des joueurs tous. Si on prend les équipes individuellement. Elles ont des joueurs qui jouent au plus haut niveau. Tu parles de Mohamed Salah, c'était un des meilleurs joueurs D'abord l'Angleterre et même au niveau du monde.
Cette observation de problème mental revient souvent aussi dans les commentaires même des profanes. C'est quoi cet élément qui manque? Le mental devrait être comment?
Mais quand on fait ce sport, que ce soit le football ou bien le basketball, le handball, le sportif d'abord se détermine par son mental, par sa volonté d'agir, de gagner. Et si on n'a pas ce mental-là...
Il faut donc une hargne permanente, un peu à la Cristiano Ronaldo.
Mais il faut être toujours en colère. Quand on est sportif de haut niveau, qu'on soit entraîneur, qu'on soit joueur, qu'on soit au niveau du staff technique, du staff médical, je dis souvent à mes joueurs, il faut avoir toujours une colère positive. Le feu qui vous anime constamment. Et nous, on n'a pas ça. En Afrique, tous les protocoles sont bafoués. C'est pas seulement dans le football. Donc, on n'a pas de protocole, on y va... En se disant, bon, c'est une fête entre amis, alors c'est la Coupe du Monde.
Alors, Bruno Blas, de manière un peu mieux détaillée, vous avez évoqué un certain type de protocole, tactique, technique, de préparation.
Mental aussi.
Mental, de préparation. Oui. Quelle est la différence que vous avez perçue et qu'il faut améliorer entre quand on va dans une compétition comme la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et quand on va au Mondial de football? Quelle est la différence de niveau de ces protocoles qu'il faut observer, que les équipes africaines n'ont pas montré pendant cette compétition?
Mais lorsqu'on prépare une CAN, je ne veux pas faire un jour aux équipes africaines, mais c'est un autre niveau. On est entre équipes africaines. Là, je parle de la Coupe du Monde. Donc le protocole doit monter d'un cran. Donc on doit faire attention à tout, on doit tout planifier.
Donc sur le plan de mental, on doit être agressif permanent.
Mais partout. Et je prends par exemple le Maroc. Le Maroc avait un problème. Pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils n'ont pas pris de but. Mais ils n'en marquaient pas. Donc cela se planifie, se prépare. Ok. Donc le Maroc aujourd'hui, cette fois-ci aussi, ils n'ont pas marqué. Contre l'Iran, ils n'ont pas marqué. Ils ont eu des occasions. Donc il y avait des lacunes, des tares sur le plan offensif. Mais ça se prépare. On ne peut pas venir à la Coupe du Monde et le faire comme ça, in vivo. C'est impossible. Donc, c'est-à-dire que quand je parle de protocole, c'est à tous les niveaux, ça se planifie, la Coupe du Monde, c'est plus qu'un voyage, c'est une destination. Une destination de victoire. Tout du moins, même si on peut pas gagner, mais on doit passer, le premier tour. Être en huitième au moins, tout du moins.
Alors,
mais
Bruno Blas,
cinq équipes qui soient éliminées au même moment, c'est qu'il y a un problème.
Bruno Blas, tout à l'heure, Pierre-Célestin Kabala a évoqué cet aspect il y a juste quelques instants, l'aspect d'infrastructure. Y a-t-il, selon vous, un rapport entre ces régulières défaites africaines en compétition internationale et particulièrement en Coupe du Monde de football, avec les lacunes africaines dans les budgets destinés au sport, mais également dans les infrastructures régulièrement dérisoires dans la majorité des cas?
Bon, ça c'est un débat très profond. Hein. Je crois que, au contraire, nous avons des problèmes, effectivement, on le sait, sur le plan des infrastructures et tout ça, mais ce n'est pas une raison.
Ce n'est pas un élément déterminant que ça.
Non, ça peut l'être. Hein, ça dépend de sous quel angle on se place. Mais Mouy l'a dit tout à l'heure, l'écart se resserre. Tous nos joueurs, pratiquement, sont dans les plus grands clubs. Donc ils sont habitués aux efforts constants, quotidiennes. Ils savent comment les entraînements se font. Ils savent comment la récupération se passe. Donc l'écart se réduit, c'est vrai. Mais à un moment donné, je répète, si on repart en arrière pour voir les infrastructures, non. Nous avons des grands joueurs, nous avons des joueurs de talent.
Est-ce que les coachs ont le niveau? Est-ce qu'ils ont bien fait leur travail?
Bon, moi personnellement, je n'apprécie pas, pas en tant qu'être humain, mais je n'apprécie pas Hector Cuper, qui a entraîné à l'époque Valence, qui a entraîné deux, trois équipes, mais qui ne m'a jamais démontré, par la façon de jouer des équipes, qu'il avait, pour moi, qu'il avait le niveau. Et on l'a vu, l'Égypte était incapable de faire trois passes, sur le plan de la possession, sur le plan de la mobilité, sur le plan de la perte de balles, il y avait pas un pressing constant. Donc, on sentait pas sur le plan, voilà, bon.
L'Allemand du Nigeria et l'Africain à l'UCC.
Bon, Guenot Rohr, qui a joué à Bordeaux, que je connais un tout petit peu. Voilà, c'était pour moi, c'était plutôt un destructeur. quand il jouait, parce que c'est un défenseur rigueux, mais qui n'a rien apporté au Nigeria. Moi, le Nigeria que j'ai connu à l'époque, c'est pas le Nigeria que j'ai connu aujourd'hui. Incapable de s'enflammer, incapable d'avoir... Non, c'est pas ça. Et à part l'entraîneur français...
Hervé.
Voilà, qui a apporté quelque chose. Parce que lui, j'ai senti sur le match contre l'Espagne, le Maroc joueuse, entreprenante, ils ont marqué deux buts, ils ont fait une partie exceptionnelle, ils ont des joueurs pour moi qui m'ont surpris comme Ziyech. Donc pour moi le Maroc méritait d'aller, mais simplement sur le plan mental, ils ont raté leur de premier match parce que mentalement ils étaient en deçà de ce que devait être le mental pour affronter ce niveau de compétition.
Nous allons revenir à vous, un match terminé 2-2, donc Maroc 2, Espagne 2, parlant de ce match que vous commentiez. Al Kitenge, analyste et stratège, trêve de tourner autour du pot, et parlons-en directement. Alors cette question, y a-t-il ou pas, selon vous, complot contre l'Afrique au Mondial chaque fois?
Je ne crois pas qu'il y ait complot contre l'Afrique chaque fois. Ce serait le plus beau prétexte dont on pourrait se servir. Il faut reconnaître de toute façon que le football africain est largement en deçà du football européen. Il y a 2-3 choses pour le montrer de manière assez claire. Les progrès entre les 4 ans sont à vitesse variable. Le football aujourd'hui donne une photographie de ce que est l'Afrique. On ne peut pas être un pays ou un continent plutôt désorganisé, espérer faire des résultats de manière spécifique seulement sur un secteur qui est celui éventuellement du football.
Même si on a des très grands talents, un potentiel infini.
Je vais vous dire des choses très simples. Regardez nos équipes nationales, et Bruno est juste à côté de moi, demandez à Ibenge pourquoi lorsque vient le moment de jouer les grandes compétitions africaines, on fait appel pratiquement à plus de la moitié des joueurs qui évoluent en Europe. Il y a une raison à ça. Ils évoluent dans un système plus performant que le nôtre. C'est du système dont je parle. Et aujourd'hui, la faiblesse du football africain est dans le système. J'explique. Vous savez, le football, ce n'est pas qu'un problème d'infrastructure. Il faut des infrastructures qui répondent aux normes, de toute façon. Mais c'est aussi un problème d'école. L'école d'âge, l'école professionnelle, mais c'est tout un enseignement. Le football, aujourd'hui, n'est plus un fait du hasard. C'est une science. Mais c'est aussi une question de médecine. Bruno en parlait tout à l'heure, l'endurance. L'endurance est liée à l'être humain, mais également à toute la médecine qui vient derrière. C'est une question de diététique. Vous ne mangez pas n'importe quoi et vous espérez avoir un résultat. Il y a des gens qui vous suivent, qui suivent votre poids, qui suivent la formation de vos muscles, qui déterminent qu'est-ce que vous devez manger, ce que vous ne devez pas manger. C'est donc, comme je le disais, aussi une question de physique. Je suivais encore une émission ce matin, les gens qui vous parlent de la vitesse du ballon, qui vous parlent de l'impact du vent sur le football, sur le ballon, qui vous parlent des manières dont les joueurs doivent se présenter. C'est toute une science et nous ne les avons pas. Nous, on joue par hasard et on voudrait avoir les mêmes résultats que les autres. Ça ne marchera jamais. Et moi, j'ai envie de dire quelque chose de très simple. Ce qui fait la faiblesse du football africain, et c'est aussi peut-être le fait que, quand je parle du système, il n'y a pas d'industrie du football ici. Il n'y a pas de finance de football. On bricole avec tout. Et je crois que c'est quelque chose qui est tout simplement inacceptable. Et il faut qu'à un moment donné ou à un autre, on professionnalise notre manière de gérer le sport. Moi, je ne peux pas comprendre que, jusque aujourd'hui, le football africain ne se professionnalise tout simplement pas. Pourtant, il est prouvé que nous avons des talents de haut niveau. Nous avons beaucoup de talents et beaucoup de capacités techniques.
Mais Al Kitenge, quels sont les aspects concrets sur lesquels le football africain doit se professionnaliser et de manière assez rapide?
D'abord, sa gestion. Nous avons une gestion africaine calamiteuse. Vous suivez toute cette affaire qui a commencé à la tête à la FIFA, mais elle est beaucoup plus grave lorsque on en parle en Afrique. On entend tous ces scandales au Cameroun et tous les scandales de l'équipe nationale en République
démocratique du Congo. Les détournements, l'argent non payé, les budgets amateurs.
C'est déjà des choses honteuse qu'il faudrait régler une fois pour toutes. Vous voulez savoir quel a été le budget de la Fédération française de football? C'est sur Internet. Royaume-Uni, même chose. Allemagne, même chose. C'est des données de base. Pourquoi? Parce que il s'agit de beaucoup d'argent, mais géré d'une certaine manière. Et c'est important de le faire. Dès qu'on aura réglé ce genre de choses, on va mettre en place un mécanisme de rémunération des différents acteurs. Je suis fier aujourd'hui de vous dire que le match qui est en train de se jouer en ce moment a, dans le corps arbitral, un Sénégalais. Il n'y a aucune chance qu'il y ait un Congolais. En tout cas, pas dans le passé, peut-être dans les années à venir.
Qu'est-ce qui peut justifier ça?
Mais nous sommes corrompus jusqu'à la moelle épinière. Nous abîmons nos championnats parce que simplement on voudrait favoriser X, Y et Z pour des raisons de toute espèce, des fois des raisons hautement politiques. Et moi, j'estime en passant que c'est des choses complètement honteuses qui nous empêchent d'évoluer. Et lorsque nous résoudrons ces problèmes de base, il nous faudra résoudre un problème fondamental aussi qui est celui d'équipement. On ne peut pas, dans des infrastructures complètement délabrées, espérer former des champions. C'est impossible. Il faut y travailler. Nous devons nous équiper. Derrière ça, il faudrait organiser les finances. Aujourd'hui, le football africain, le football de la RDC, par exemple, fonctionne avec l'argent de l'État. Mais c'est complètement dépassé, ça. Il faut aller au-delà. Aujourd'hui, je pense simplement qu'il faudrait que les gens se rendent compte que quand on parle des championnats du monde, dans 4 ans, il faut commencer à se préparer maintenant. Et nous, on attend la dernière minute pour constater l'échec. Mais en fait, c'est un échec programmé. Et je pense simplement que le jour où nous prendrons les choses au sérieux, le jour où nous allons considérer que les sports sont une véritable industrie, c'est de l'économie, c'est des emplois, c'est tout un système, nous prendrons les choses différemment.
Mais Al Kitenge, est-ce que l'Afrique n'est quand même pas dans un complot contre elle? Par exemple, il y a un ouvrage que vous avez certainement lu ou dont vous avez entendu parler, l'ouvrage intitulé « On refait la Coupe du Monde ». Dans cet ouvrage, ce document, les auteurs montrent que des cas répétés d'injustice supposée qui pénalisent les pays africains existent bel et bien. Quelques exemples sont cités, l'Algérie en 82, le Cameroun cette même année et en 98, avec des buts qui leur sont refusés pour hors-jeu, etc. Le Nigeria ou encore le Sénégal, dont les pénaltys pendant cette même compétition sont refusés. Et ne parlons même pas de cette vidéo qui est de manière récurrente refuser à des réclamations africaines.
Je crois qu'il faut regarder les choses de manière tout à fait transversale. Il y a certainement ça et là des actes complètement induits et inacceptables, mais est-ce qu'ils déterminent la vérité du football africain? La réponse est non. Il faut avoir la vérité en face. Il faut regarder la vérité en face. Notre niveau des championnats, notre niveau organisationnel est encore faible. Et il faut y travailler. Regardez, tous nos enfants qui partent d'ici, dès qu'ils arrivent dans un autre système, ils donnent des résultats différents. Regardez l'équipe française. C'est plein de noirs. Et lorsque on nous laisse tout seuls, l'organisation est différente et les résultats sont différents. Et je pense qu'il faut y travailler. Il faut regarder les choses véritablement et il faut avoir le courage de les regarder comme ils sont. Vous savez, il y a des pays comme le Japon, ils ont fait du football féminin un leitmotiv et vous vous rendez bien compte qu'ils sont parmi les meilleurs. Vous vous rendez bien compte que les Américains ils savent très bien qu'ils sont en retard sur le football, ce qu'ils appellent le soccer, mais sur le football féminin ils ont essayé de mettre des paquets. Il y a des pays comme l'Islande où il n'y a pas de football professionnel, mais ils ont tout un tas de systèmes qui leur permettent d'être performants. Il faut savoir ce que l'on veut. Les résultats n'est jamais le fait du hasard. Et je crois que si l'Afrique désire aller loin assez rapidement, il est important que déjà au niveau de l'organisation, il est important que l'éthique soit montée au plus haut niveau. Il faut que l'argent joue un rôle vertueux et il faut que l'argent aille là où il faut. Si vous avez des arbitres qui corrompent à 15 000-10 000 $ et ils se laissent faire, bien entendu, vous aurez des championnats catastrophiques et aussi vite que vous allez monter à niveau, on vous élimine comme des enfants. Et je crois qu'il est important que nous puissions être en mesure de mettre toutes ces choses sur la table.
Al Kitenge, merci de ce premier éclairage. Vous êtes un commentateur chevronné dans des questions de sport aussi. Nous allons repartir chez Pierre-Célestin Kabala Mwanambui, mais pour obtenir la deuxième partie de réaction, nous allons ensemble écouter plutôt cette réflexion qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui justifient la mauvaise prestation des nations africaines dans cette messe de football, notamment le manque de préparation et de lucidité qui ont caractérisé ces équipes. Car dit-on, qui veut aller loin prépare sa monture. Les équipes africaines doivent réformer leur football, améliorer la qualité de leurs championnats respectifs et travailler sur l'endurance, car les joueurs africains se fatiguent aussi vite. Je crois que ces éléments peuvent justifier la contre-performance de ces équipes.
Voilà, à Pierre Célestin, votre réaction?
Oui, en partie, je suis d'accord avec notre auditeur intervenant, mais je voudrais lui dire, en rejoignant Al Kitenge et Bruno Blas, en disant que tout doit partir de la base. Moi, je trouve que le problème est même fondamentalement culturel. L'Afrique, en général, a une culture de cueillette, et l'Afrique n'a pas de culture de souffrance, pour arriver au résultat. Regardez comment ça se passe. Nos athlètes africains, lorsqu'ils arrivent tout près de la ligne d'arrivée en athlétisme, par exemple, ils relâchent la course. C'est que ils s'adonnent à la fête avant que la victoire n'intervienne. Et c'est la même chose avec nos équipes de football. Mais cela est dû à l'insuffisance de leur préparation à la base. Nous avons parlé de l'esprit. L'esprit sportif a évolué depuis le dernier siècle, où on est professionnel et on doit l'être des puritains. C'est que les Africains ne veulent pas faire à partir de leur pays. Vous avez parlé du Nigeria, mais le Nigeria, avant d'aller à la Coupe du Monde, vous savez ce qui s'est passé là-bas, avec toutes ces scènes de détournement, et puis le gouvernement a révoqué, je peux dire, je peux utiliser les mots, et même traduit en justice le président de la fédération, ainsi de suite. Comment voulez-vous que des gens comme ça puissent être bien organisés pour aller à la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, et Bruno Blas l'a dit, c'est une destination. C'est comme un élève qui commence la première année, et lorsqu'il la termine en primaire, il s'est dit qu'il arrive en secondaire. Et qu'il termine en secondaire, il dit qu'il doit aspirer à aller à l'université. Mais à l'université, c'est pas pour rigoler. Là, les choses ont complètement une autre dimension. Mais ce n'est pas ce que pense l'Africain. Il part avec tous ses défauts, ses limites. D'abord, il joue sur le même terrain que le chèvre qui passe, les voitures qui passent, et puis on arrête. Et cet homme a évolué avec ses insuffisances. Et lorsqu'il part, là, on joue 90 minutes pleines, mais ce monsieur n'a pas suffisamment d'arguments pour arriver à la fin. Lorsqu'il a marqué un but, il s'est dit, ça y est, c'est terminé. Alors que l'arbitre n'a pas encore sifflé.
Pierre Célestin, c'est fondamental. Pierre Célestin Kabalamon Ambouy, on comprendrait quand même, vos arguments sont tout à fait justifiables, hein, mais on comprendrait quand même que ces nations africaines perdent 5-0, 8-0 et, ou un peu plus. Mais on a toujours un peu un goût d'inachevé, non, de constater que c'est à la dernière seconde que la plupart d'équipes africaines ont perdu leur match, à la toute dernière seconde. C'est-à-dire que si on avait jeté le ballon un peu plus loin et que les secondes étaient passées, ces équipes africaines seraient peut-être qualifiées. Ou si tous les 11 joueurs étaient allés s'aligner sur leur dernier but, je crois que les adversaires auraient tiré sans pouvoir perforer cette barrière. Pourquoi, à la dernière minute, les équipes africaines ne mettent même pas une telle stratégie, un peu folle, hein, mais une stratégie qui pourrait empêcher que le but entre?
Oui, cher ami, mais si nous regardons bien le tableau, cette fois-ci, il n'y a que la Tunisie qui a fait de la honte devant la Belgique avec ses scores fleuves. Mais pour tous les autres, je crois que c'était quand même dans la limite du faisable et de l'acceptable. 2-0, c'était le score le plus lourd, hein, pour les autres, excepté la Tunisie. C'est que il y a déjà un effort qui est fait. Nous avons eu 1-0, 1-2, un but partout et tout ça. C'est appréciable et c'est admirable. Mais le problème, c'est quand ils font ça, pour eux, c'est déjà une victoire. C'est fini, ils commencent à chanter. Et collectivement, ils se disent, ça y est, nous avons gagné contre ceux qui sont considérés comme étant les plus forts. Mais c'est fini, les gens commencent à jubiler, même dans les gradins. Il n'y a plus de ressort pour aller au-delà et repousser la fatigue et la limite de l'effort humain. C'est là le problème. Et on l'a dit, je crois que c'est Al-Kitenge qui le dit, avec autorité, c'est que les gens ne mettent pas la science au service du sport dans notre continent.
Merci.
Et pour que cela arrive, il faut que la préparation commence par les écoles, qui doivent avoir des arguments et des moyens pour faire entrer la science dans la pratique du football.
Merci Pierre-Célestin Kabalamon Ambouy. Parole maintenant à Bruno Blas, qui va réagir, mais avant sa réaction, ce commentaire qui nous vient de Bukavu.
Jacques Bofonga, depuis Isangi. La prestation des équipes africaines a été médiocre. Des 15 confrontations engagées dans cette compétition, les équipes africaines n'ont eu que 3 victoires. C'est un échec déplorable qui exige de gros efforts pour tous les Africains. Cependant, en dépit de tout ce qui est comme traitement discriminatoire des Africains, il faut les reconnaître à cette compétition. Retenons quand même que les équipes africaines n'ont pas bien joué. Il leur manquait souvent la concentration et la volonté de mieux faire. Maintenant, ce qui est important, c'est de tirer les sorts de tout ce qui est arrivé. Ça ne sert à rien de crier sur la FIFA. La grande responsabilité, c'est au niveau interne. Le football africain a un gros défi d'ordre organisationnel et fonctionnel. C'est de là qu'il faut commencer.
Alors, le commentaire de Bukavu sera tout à l'heure adressé à Al Kitenge, mais celui-ci vient plutôt de Dissangui. Apparemment, les bons observateurs du ballon rond, il y en a beaucoup. Hein.
Oui, comme les entraîneurs sont hyper nombreux. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention et de tristesse aussi mon ami Al, et puis le grand monsieur qui est Kabbalah Monamoui. L'ordre ou le désordre dépend de l'organisation. Nous, en Afrique, ça fait plus de 50 ans, 60 ans qu'on se flagelle. Tu parles de complot. Quel complot? L'Argentine a perdu. On ne peut pas parler de complot. Parce que l'entraîneur n'a pas été au niveau. Il a fait des choix, à mon sens, exécrables.
Mais est-ce que la pluralité de ces entraîneurs non africains qui dirigent la plupart de nos sélections, est-ce que ce n'est pas une infiltration un peu géostratégique?
Non, mais...
On les recrute.
Oui, ils sont recrutés parce que c'était un grand débat. J'aimerais qu'un jour qu'il y ait un dialogue et qu'on parle de ça. Vous savez, nous avons un défaut. Nous, les entraîneurs africains, dès qu'on voit notre pot, on se dit qu'il est nul. Lorsqu'un entraîneur africain perd un match, il a été corrompu, alors qu'il n'est pas payé, on dit qu'il est corrompu. Donc, nous avons déjà, vis-à-vis de nous-mêmes, de notre couleur de peau, de ce que nous sommes, nous avons des a priori.
Mais Bruno Blas, écoutez plutôt ce que dit un entraîneur hein, ouais. Qui a récemment entraîné une équipe championne d'Afrique hein, en titre pour le moment, le Belge Hugo Bros. Ce qu'il dit m'a fait un peu sursauter. Peut-être que ça ne va pas vous faire la même réaction, mais écoutez, voilà ce qu'il dit. Il venait d'être limogé il y a à peine quelques mois. Il dit ceci, et du Cameroun, le pays qu'il a entraîné. Les équipes africaines qui se sont qualifiées connaissent les exigences du football moderne. Allez voir l'infrastructure au Maroc, vous ne trouverez pas ça au Cameroun, le pays avec lequel il est sorti champion d'Afrique. Il n'y a pas de joueurs comme Mohamed Salah, l'Égyptien de Liverpool. L'Afrique du Sud et le Sénégal sont en train d'opérer des déclics et le Maghreb est déjà en pleine mutation. Les autres éléments peuvent être laissés de côté, mais comment comprenez-vous les réactions d'un entraîneur qui vient d'être champion d'Afrique avec un pays et qui critique ce pays de la sorte?
Non, mais il est libre. Le sport est un cap démocratique. Il peut dire ce qu'il veut dire. Mais il dit des bêtises. Hein, et il sait pourquoi il le dit. Moi c'est, le débat n'est pas ce point-là. Mm-hmm. Je répète, l'ordre ou le désordre dépend de l'organisation. En Afrique, on n'est pas organisé. Il n'y a pas que dans le football.
Autrement dit, est-ce que c'est pas un mercenaire qui a peut-être par coup de chance réussi son coup de gagner la Coupe d'Afrique, mais au fond, c'est pas le cœur, c'est pas le respect pour le pays.
Mais je crois que les pieds vont là où le cœur a précédé. Donc quand on n'aime pas la chose qu'on fait, je parle à tous les niveaux. Il faut aimer d'abord quand on va à la Coupe du Monde, on défend des millions de Congolais. Si le Congo était là-bas, ce sont 80 millions de Congolais qui vous regardent. Quand on regarde l'impact qu'a le football et la Coupe du Monde sur les Africains, donc c'est une fierté. Donc on défend tout un continent. Mais quand on y va parce qu'on a des primes, parce qu'on attend... voilà, donc ça peut pas marcher. Donc l'Afrique doit organiser. Et sur le plan, ne serait-ce que technique, qu'est-ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde? Et personne n'en parle. Si on prend Messi a une saison énorme avec le Barça. Il a joué les qualifs. Si je prends Ronaldo, donc ils sont arrivés émoussés. Donc la préparation, quand je parle de protocole de préparation, ça devait être donc au point.
Merci Bruno Blas. Finalement, on en arrive à l'auditeur de Bukavu, Lissija, qui a adressé sa préoccupation que nous soumettons à Al Kitenge.
Disons que l'élimination des grandes nations de foot à l'estade de l'Espagne, l'Argentine, le Portugal et d'autres ce soir, pourtant bénéficiant de la technicité de grandes stars du monde dans la discipline comme Messi, Ronaldo, Suarez et les autres, est une consolation pour l'Afrique frustrée par l'insuccès de ses 5 représentants à cette Coupe du Monde Russie 2018. Néanmoins, le Nigeria et le Sénégal auraient pu se qualifier à la 8e de finale, n'eût été l'arbitrage vidéo utilisé comme argument fallacieux par les arbitres pour justifier leur injustice de refuser de leur accorder des pénalties. Ainsi, l'Afrique aurait dû se liguer, documenter toutes ces vidéos traduisant cette injustice d'arbitrage et suspendre sa participation à deux éditions de la mondiale à venir en vue d'établir un peu d'équité dans l'arbitrage qui, à mon avis, a contribué à 75% à l'élimination de ces nations africaines auxquelles toute l'Afrique doit dire merci en passant pour leur bravoure.
Alors, au-delà des arguments technologiques en défaveur de l'Afrique dont vient de parler l'auditeur, je voudrais, avant votre réaction, Al, vous soumettre aussi ces propos du même entraîneur belge qui a entraîné le Cameroun et qui a eu du succès avec, qui dit « Le principal problème pour un pays africain, c'est de garder le focus ». J'ai déjà entendu ce discours parmi vous ici. Sur un match, le Sénégal, l'Égypte et le Maroc peuvent battre l'Allemagne. Mais atteindre le deuxième tour, dans quelque groupe que ce soit, c'est difficile. Est-ce que ce n'est pas déjà préparé la psychologie des Africains?
D'abord, ce qu'il dit n'engage que lui. Ça n'oblige pas les Africains à accepter cet état d'esprit. Ça n'oblige pas les Africains à croire en lui comme on croirait en Dieu le Père. Je crois simplement qu'il faut se libérer de Jérémiah, d'un certain nombre de personnes. Ce n'est qu'un individu, il n'a dit que ce qu'il pense. Là où moi je suis plus ou moins d'accord avec lui, c'est le fait que, très malheureusement, les championnats africains sont assez faibles. Les dirigeants sportifs africains sont assez faibles. Et le système de football africain est très faible. Les mêmes joueurs, dans des conditions différentes, donnent d'autres résultats. Mais moi, je voudrais simplement revenir sur quelque chose d'assez simple. C'est que le football est un sport d'intelligence collective. Des individualités, ça peut donner des résultats, ça peut faire la différence, mais il faut que le système d'ensemble soit cohérent. Et c'est là-bas que nous perdons le focus. C'est là-bas que nous n'avons pas suffisamment de force. C'est là-bas que le cursus est très important. Et c'est pour ça que, je disais tout à l'heure, c'est une question des sciences, c'est une question de médecine, c'est une question de diététique. Et je pense simplement qu'il est important qu'on intègre que on ne joue pas au football aujourd'hui par hasard. Vous savez, regardez un joueur français qui est devenu entraîneur en Espagne. Ce n'est pas par hasard qu'on devient ce qu'il est devenu. Simplement parce que ce monsieur a été discipliné. Et je crois que c'est une des choses qu'il faudrait qu'on remettre en ordre chez nous, c'est la discipline, la persistance, le travail. On n'a pas de résultats par hasard. Ça n'existe pas, encore moins au football. Moi, je voudrais simplement dire quelque chose de très simple, c'est que en termes de management, je crois que le football africain a encore un problème et il faudra y travailler.
Alors, comme mot de la fin, en 15 secondes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les équipes africaines prétendent un jour remporter une Coupe du Monde ou aller le plus loin possible?
D'abord, il faudrait que la Confédération africaine de football se réorganise et remonte le niveau de management et que les fédérations nationales fassent la même chose. Il va falloir que les pays africains qui sont largement en retard s'équipent pour que le championnat devienne de bien meilleure qualité.
Merci Al Kitenge. Alain Ngoy était à la technique. Guy Maté à la réalisation. Supervision signée Pelé Kipela Mondo de Namadimba. C'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais pour ce soir, c'est fini. Merci de votre attention. Demain, un autre jour. Merci. Au revoir.